Tout à l'heure de la Réformation, nous nous souvenons de ce grand mouvement qu'a été la Réforme du XVIe siècle. Il nous est donné ces deux textes de la Bible pour notre méditation, notre réflexion. Et je vous lis le premier dans le livre du Deutéronome au chapitre 10, les versets 12 à 19. Moïse dit, « Et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous ? Il attend seulement que vous le respectiez en faisant sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de tout votre être. Il vous demande d'obéir à ses commandements et à ses lois. Je vous les donne aujourd'hui pour que vous soyez heureux. Oui, le Seigneur votre Dieu est le maître du ciel. » Du ciel immense, pardon, et de la terre et de tout ce qu'elle contient. Autrefois, c'est seulement à vos ancêtres que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. Et maintenant, c'est vous, les enfants de leurs enfants, qu'il a choisi parmi tous les peuples. Vous le voyez bien aujourd'hui. Soyez donc totalement consacrés au Seigneur et ne vous révoltez plus contre lui. Oui, le Seigneur, votre Dieu, est le plus grand des dieux et le plus grand des seigneurs. Il est le Dieu grand et puissant et terrible. Il ne fait pas de différence entre les gens et il ne se laisse pas acheter par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves. Il montre son amour pour les étrangers installés chez vous en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous aussi, aimez donc les étrangers car vous avez été étrangers en Égypte. Et puis le passage qui sera celui de notre réflexion tout à l'heure, notre méditation, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Certains croyaient être justes et ils méprisaient les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre employé des impôts. Le pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur. « Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. » Je jeûne deux fois par semaine, je te donne le dixième de tout ce que je gagne. L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine pour demander pardon et il dit « Mon Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Et Jésus ajoute « Oui, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme une personne juste. » Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Je vous invite à prier. Donne-nous, Seigneur, ton esprit pour que ces paroles de l'Évangile puissent encore faire sens pour nous aujourd'hui, qu'elles puissent encore aujourd'hui nous réformer, réformer nos églises, qu'elles puissent encore aujourd'hui agir comme elles ont agi dans l'histoire depuis que tu les as prononcées. Merci pour cette parole que tu nous adresses encore en notre temps. Amen. Une des spécificités de cet extraordinaire mouvement que fut la réforme du XVIe siècle, je dis, c'est pour ceux qui sont arrivés après que je l'ai annoncé en début de culte, aujourd'hui c'est le dimanche de la réforme, de la réformation, où l'on se souvient, où l'on commémore cet événement de la réforme. Donc, une des spécificités de ce mouvement a été la redécouverte de ce qu'on appelle la grâce. Un homme qui vivait à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, Luther, allait redécouvrir le sens de cette parabole que Jésus avait racontée longtemps avant. Je sais, ce n'est pas cette parabole qui a déclenché la conversion de Luther, mais la lecture des épîtres de Paul. Ceci dit, le réformateur l'a plusieurs fois utilisé par la suite pour faire comprendre à ses auditeurs le sens du message qu'il avait découvert. Le vécu de cet homme, qui avait tout fait pour être un bon pharisien, et même, dirais-je, un bon, employé des impôts, dans les versions traditionnelles, par des publicains. Voilà. Ça évite de viser les employés d'impôts d'aujourd'hui, vous comprenez? C'est l'avantage. Mais on sait plus qu'un publicain, mais au moins on pense pas à son voisin qui travaille aux impôts. Voilà, il faut. Et tout cela a permis à Luther de faire une lecture très fine de cette petite histoire. Luther, vous comprenez, il était né en 1483 et avait grandi dans une famille pieuse et sévère, comme beaucoup à l'époque. Il est entré à l'université en 1501, où il étudie le droit. Étudiant modèle, il n'avait rien d'un contestataire. Pour lui, Dieu est un juge avec lequel il vaut mieux être en règle. Point. À deux moments dans sa vie, il a eu très peur de la mort. Une fois où il s'était assez gravement blessé avec une épée, et une fois où il avait été foudroyé par un éclair lors d'un orage. Il a réalisé à ce moment-là qu'il fallait qu'il se prépare à rencontrer ce Dieu qui était le sien, ce juge. Du coup, plus rien n'avait d'importance pour lui. Sa destinée éternelle devint sa seule préoccupation. Comment s'attirer les faveurs de Dieu devient sa seule question. Pour cela, pour y répondre, il entre au monastère en 1505, il était encore jeune, et il s'adonne à la prière, au travail et aux privations, aux jeûnes. Il fait tout ce qu'il peut pour plaire à Dieu, comme le pharisien de notre histoire. Et il écrit à ce moment-là, « Je croyais qu'il me fallait faire de bonnes œuvres jusqu'à ce que le Christ me fût par elles rendu favorable. » Au couvent, je ne songeais ni à l'argent, ni aux biens de ce monde, ni aux femmes. Mais mon cœur tremblait et s'agitait en songeant comment il pourrait se rendre favorable à Dieu. Après avoir accumulé des jours et des nuits de prière et de privations de toutes sortes, il n'en peut plus. Et il finit par dire « J'aimerais qu'il n'y eût point de Dieu. » Toute cette démarche l'a conduit à préférer qu'il n'y ait pas de Dieu. Puis, il continue et il devient docteur en théologie et commence à enseigner. Et c'est là qu'il va vivre un bouleversement extraordinaire. Parce que pour les enseigner à ses étudiants, il étudie dans le détail les textes des psaumes, de l'Épître aux Romains, de l'Épître aux Galates et de l'Épître aux Hébreux. Et c'est de cette manière qu'il découvre la bonne nouvelle qu'il a appelée la bonne nouvelle de la déchéance absolue de l'homme et du salut total de Dieu. Et il écrit « Ce que tous les efforts, toutes les nuits de prière et tous les jeûnes ne peuvent acquérir, la foi et la confiance en Dieu le reçoivent. » Une fois donc qu'il a découvert cette vérité, Luther ne peut pas la garder pour lui. On est à ce moment-là en pleine collecte des indulgences. On pensait que si l'on donnait de l'argent à Dieu, il allait nous être plus favorable. C'est un courant qui revient aujourd'hui dans certaines églises. On appelle ça aujourd'hui les théologies de la prospérité, mais c'est exactement la même chose que les indulgences. Le pape finançait la construction de la basilique Saint-Pierre avec cet argent, et il en avait bien besoin. Et pour réagir, Luther va écrire ses fameuses 95 thèses qu'il placardera le 31 octobre 1917 sur la porte de la cathédrale de Wittenberg pour rappeler les vérités de l'Évangile face à cette dérive. Et c'est pour cela qu'on fête la Réformation, les derniers dimanches d'octobre chaque année, en souvenir de cet acte de Luther. Le contexte social bouillonnant de l'époque va donner un écho tel à ses thèses que toute l'Europe va en être bouleversée. Et à partir de là, Luther sera attaqué. Et il se défendra en écrivant. Et comme l'imprimerie vient juste d'être inventée, ça tombe bien, ses ouvrages se répandront avec une rapidité jusque-là impensable. Mais les choses s'enveniment, le pape excommunie Luther et tous ceux qui prendront sa suite, ce qui explique que formellement on soit toujours les protestants excommuniés puisqu'on est supposé avoir suivi Luther. Et ensuite, Luther est convoqué devant un tribunal et il y vient accompagné de 2000 personnes qui se sont spontanément jointes à lui sans qu'il l'ait vraiment cherché. Et on lui demande là de se rétracter, ce qu'il refuse, en disant qu'il ne peut pas aller contre la parole de Dieu ni contre sa conscience. Le représentant de l'évêque lui demande alors d'abandonner sa conscience pour obéir à l'autorité, ce qu'il refuse. Ce que les protestants savent bien refuser aussi, encore aujourd'hui. Dehors, certains demandent sa mort. Il est mis donc au banc de l'Empire, et c'est là qu'il compose le fameux chant « C'est un rempart que notre Dieu », ce chant que nous allons chanter tout à l'heure après la prédication. À partir de là, pour prêcher la grâce, pour Luther, pardon, prêcher la grâce est essentiel. Rappeler aux hommes et aux femmes de son temps que ce n'est pas ce qu'ils font ou ne font pas pour Dieu qui va faire que Dieu les aime, mais que c'est que Dieu aime leur personne telle qu'ils sont, c'était le centre de son message. Et c'est pour cette raison qu'il s'est plusieurs fois appuyé sur la parabole que nous avons lue aujourd'hui. Et dans son œuvre écrite, on trouve de nombreuses références à cette parabole. Dans le prolongement de sa pensée, je voudrais donc en revenir maintenant à notre texte de l'Évangile, en pointant seulement deux éléments de cette petite histoire. Ceux que Jésus fustige ne sont pas ceux qui se sentent justes dans la parabole, mais ceux qui se justifient sur le dos des autres, par comparaison. Le pharisien type n'est pas celui qui se sent juste, mais celui qui est persuadé de l'injustice de ceux qui ne sont pas comme lui. C'est pas tout à fait la même chose. Jésus ne lui reproche donc pas de faire ce que lui demande la loi, ni même d'en faire plus, mais de penser que cela lui donne le droit de mépriser les autres et de se sentir supérieur. Et je vous rappelle que notre texte que j'ai lu tout à l'heure commence ainsi. Certains croyaient être justes et ils méprisaient les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Il ne faut pas oublier le « et ils méprisaient les autres ». On n'est pas justifié par comparaison. C'est ce que ça veut dire. Mais Luther ira plus loin en faisant remarquer que si l'on cherche à se justifier devant Dieu et devant soi, par ce que l'on fait de bien, il sera très difficile de ne pas se sentir supérieur aux autres à un moment ou à un autre. Comprenez, si je cherche à être juste devant Dieu par tout le bien que je fais, et si je cherche tellement à donner de l'importance au bien que je fais, ça finira tôt ou tard par faire que je vais me sentir un peu supérieur aux autres. Voilà ce que soulignait Luther. Et Luther dénonce aussi un deuxième piège dans cette parabole. C'est, après avoir compris que devenir un bon pharisien n'était pas la voie, c'est d'essayer de devenir un bon collecteur d'impôts, un bon publicain. Puisque c'est à lui que Jésus donne raison. Ça paraît simple, puisqu'il donne raison à ce collecteur d'impôts, ben devenons comme lui. Et parlant de ses collègues moines qui essayaient de devenir de bons publicains, Luther écrivait « Pour ne pas se confondre avec le reste du monde, ces humbles frères, imaginez quelque péché pour la rémission duquel il puisse prier en grande dévotion avec le publicain. Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Autrement dit, il ne s'agit pas de prier, de renverser les choses en priant « Je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme ce pharisien qui pense être supérieur aux autres, mais comme cet humble publicain conscient de son péché. » Vous savez, c'est celui qui se glorifie de son humilité, et qui, en le faisant, se retrouve de l'autre côté. Car si l'on fonctionnait comme cela, en remerciant Dieu de ne pas être comme ces pharisiens, on deviendrait pharisien, et l'on devient pharisien de toute façon dès qu'on refuse de penser qu'on pourrait l'être. Dès qu'on pense qu'on est mieux que les pharisiens, on est encore plus pharisien qu'eux. C'est bête, mais c'est comme ça. La question donc qui nous est posée ici par le message de l'Évangile repris par Luther est tout simplement: comment est-ce que vous considérez les autres ? Aujourd'hui, nous savons bien dans nos églises qu'on n'est pas justifié par les œuvres. Tout ce qui est ici, vous le savez parfaitement. Vous connaissez bien ce verset, il n'y a pas de juste, pas même un seul, qu'il est des fois affiché dans les temples, pas dans celui-là, mais voilà, vous connaissez ça. Aujourd'hui, nous savons bien dans nos églises tout cela. Et cela nous permet un peu trop facilement d'esquiver la parabole et, dans le pire des cas, de penser que cette parabole est pour les autres, le catholique par exemple, ou la mission de Timothée, ou je ne sais pas qui d'autre, on a tendance à penser qu'elle est pour eux, cette parabole. Encore une fois, l'erreur du pharisien n'était pas de se sentir juste, mais de penser que les autres, ceux qui ne sont pas comme lui, ne le sont pas. Bref, si l'on voulait résumer ce message du réformateur, on pourrait dire que la seule condition pour être juste devant Dieu est d'être convaincu qu'on ne l'est pas. En tout cas, pas plus que les autres. Et c'est un message très rassurant. Très rassurant aussi car nous qui sommes préoccupés peut-être du salut d'amis ou de membres de nos familles qui pratiquent une autre foi ou aucune, il nous rappelle que Dieu est au-dessus de cela et justifie justement celui qui n'imagine pas pouvoir l'être. Et rappelons-nous de cela au quotidien, lorsque nous côtoyons des gens qui refusent, qui rejettent notre foi, qui rejettent Dieu. Dieu, justement, est pour ceux qui n'imaginent pas qu'il puisse les intéresser. Cela nous permet de regarder les autres et le monde différemment. Et là, alors, nous verrons le monde comme le fameux publicain, comme le fameux collecteur d'impôts. Et là, nous pourrons dire vraiment que la grâce de Dieu est ce dont nous avons le plus besoin. Amen. Et comme je vous l'ai annoncé, nous allons